l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question « Mais qu'est-ce qui vous légitime ?»
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête.
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver pour ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi, de 12h50 à 13h30 sur France Culture, arpente les coulisses de la vie politique pour mieux comprendre son fonctionnement, ses structures, son histoire et son imaginaire. Alors cette semaine, une question au cœur de l'actualité, une question récurrente en tout cas depuis quelques années, celle de l'identité nationale. Qu'est-ce qu'être français, absente du débat politique il y a 15 ou 20 ans? Marginale en tout cas, la question est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Elle structure le débat entre la gauche et la droite et fait même partie de ces polémiques centrales qui polarisent notre débat politique. Alors à l'occasion de la sortie d'un hors-série du journal Le Monde, précisément intitulé « Être français » et que vous trouvez ces jours-ci dans les kiosques, c'est à ces usages politiques du thème de l'identité nationale que nous allons nous intéresser aujourd'hui, et notamment en accueillant Ségolène Royal, celle qui, à gauche, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2007, a sans doute le plus contribué à remettre cette question de la nation au goût du jour, mon cher Vincent.
Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, nous sommes entrés dans l'ère de l'identité. En France, cela fait bientôt 10 ans, depuis l'élection présidentielle de 2007, on le verra, que l'interrogation sur l'identité nationale se pose de manière récurrente dans notre vie publique et s'impose à l'ensemble de la classe politique. Pas une élection où cette question ne se traduise dans 1000 polémiques, de l'identité soi-disant malheureuse aux joutes sans fin sur ce que nos enfants doivent manger, sur ce que les femmes peuvent ou pas porter sur la tête ou sur la manière par laquelle nous devons exprimer notre religion ou son absence dans l'espace public. Il est même étonnant de constater que le débat autour de l'identité nationale née de la crise économique de long terme dans laquelle notre pays est plongé a réussi à supplanter cette dernière dans notre imaginaire politique. Comme si les Français pensaient qu'il était plus important de se déchirer dans des débats infinis sur le sens de leur identité plutôt que de s'intéresser à cette fameuse crise ou aux inégalités qui déchirent notre société. On peut être tenté d'imputer la responsabilité de ces débats excessifs au personnel politique qui se sert trop souvent de l'identité comme un apprenti sorcier et en fait un usage hasardeux entre prêt-à-penser un peu vain et invective stérile. C'est en partie vrai, mais cela ne saurait en rien limiter l'importance d'une réflexion sereine sur l'identité nationale, tant celle-ci pose des questions centrales sur l'état de notre pays. Le sens de ce qui lui est propre, son rapport à la différence culturelle, sa capacité à interagir avec le monde extérieur et à faire preuve d'hospitalité. Alors, à quoi sert l'identité nationale? Comment le débat sur le fait d'être français a-t-il évolué historiquement? Quelle différence entre la droite et la gauche sur les réponses à cette question? On en parle tout de suite avec nos invités. Et surtout, Ségolène Royal que nous recevons aujourd'hui dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré aux usages politiques de l'identité nationale.
La présidente de la COP21, actuelle ministre de l'Environnement, donc, qui avait plaidé, y compris contre une partie de son propre camp en 2006-2007, pour une réappropriation des emblèmes nationaux. À ses côtés, c'est le principe de l'émission Une universitaire, l'historienne Anne-Marie Thiès, directrice de recherche au CNRS, qui enseigne à l'École normale supérieure, auteur notamment de La création des identités nationales, un passionnant essai publié il y a quelques années aux éditions du Seuil. Et puis, dans une vingtaine de minutes, pour la séquence internationale, nous recevrons aujourd'hui Pascal Laborier, qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris-Ouest Nanterre, avec qui nous parlerons de la place du débat sur l'identité en Allemagne.
Quand on demande aux Français ce qui, pour eux, symbolise le mieux la France, ce qui vient en premier, ce ne sont ni les frontières, ni la langue. C'est le drapeau tricolore et la sécurité sociale, c'est-à-dire l'emblème de la République et les outils de la solidarité. Voilà ce qui cimente en premier lieu l'appartenance commune. Ils nous disent que la mondialisation a disqualifié la nation et que l'attente croissante à l'autonomie individuelle se ferait forcément au détriment du collectif national. Nous ne sommes pas d'accord. Je crois que la nation, dans le monde d'aujourd'hui, est protectrice des individus et doit apporter à chacun le renfort dont il a besoin pour maîtriser sa vie. Cette nation remplissant son devoir à l'égard de tous ses membres, je ne la veux pas frileuse, apeurée, défensive, doutant d'elle-même, mais au contraire porteuse d'un projet collectif et solidaire, un devoir d'invention qui lui donne tout son sens et tout son allant. C'est cela aussi la tâche de la gauche. Aider la France à se reconnaître comme elle est et à se reconnaître dans cette diversité humaine, une formidable chance pour nous tous.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Vous étiez en train de déclarer votre candidature ce soir-là, c'était à Vitrolles. Vous vous souvenez peut-être de ce discours.
Oui.
En septembre 2006, il y a quasiment 10 ans. Avec le recul, quand vous réécoutez ces paroles qui étaient les vôtres, vous vous dites quoi? J'ai été d'une certaine façon un précurseur, ces paroles elles sont très actuelles, vous diriez la même chose aujourd'hui ou pas?
Oui, je pense. Elles n'ont pas pris une ride, si j'ose dire. Et pourtant, elles datent d'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, elles sont peut-être maintenant dans l'héritage commun, pratiquement, comme si elles avaient toujours existé, alors que ce n'était pas le cas. À l'époque, elles avaient suscité beaucoup de critiques, de moqueries, de condescendance, parce que, au Parti socialiste, le mot « nation » était un mot interdit. Le drapeau était un emblème inutilisé. Dans les meetings de l'époque, il n'y avait que le drapeau rouge, il n'y avait pas le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire que la gauche avait abandonné l'essentiel de l'identité française.
Et vous avez le sentiment que cet abandon datait de quand? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. On sait par exemple qu'au début des années 80, François Mitterrand s'était servi des références à la nation.
Oui.
Alors quand est-ce qu'il y a eu, à votre sens, une sorte de perte de mémoire de cette question nationale?
C'est vrai que François Mitterrand s'était servi de ses identités. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait faire cette belle sculpture qui était à l'entrée de l'Élysée, vous savez, avec tous les drapeaux de pierre. Et ensuite, ça a reculé, effectivement, ça s'est perdu. Je n'ai pas identifié vers quel moment tout cela s'est perdu, mais c'est vrai que dans les réunions socialistes, il n'y avait pas le drapeau bleu-blanc-rouge.
Alors Anne-Marie Thiès, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, à cette question de cette perte de mémoire, à votre avis, quand est-ce qu'il y a eu une perte de mémoire à gauche de la question nationale, si tant est qu'elle soit produite?
On peut dire que sur la longue durée, il y a eu des périodes d'effacement de la référence à la nation pour se démarquer du nationalisme de droite et d'extrême droite, et des périodes qui ont recombiné les deux. Ne serait-ce que pendant la résistance, le terme national et la défense des idéaux de gauche ont été extrêmement liés, et il y a eu toute une série comme ça de combinaisons et d'éloignements. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1980, la référence à l'identité nationale, l'expression apparaît dans le débat public essentiellement à cette période, elle est portée dans un premier temps par l'extrême droite et par sa montée en puissance, d'où une gêne très claire de la gauche vis-à-vis de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ce discours qui a été évoqué là par l'archive se situe à Vitrolles.
Oui.
Et est-ce qu'il y avait un rapport entre le contenu de votre discours et le lieu où il était prononcé?
Oui,
c'est-à-dire,
bien sûr.
Rappelons Vitrolles qui avait été une municipalité gagnée par le FN en 1995.
J'ai choisi Vitrolles exprès. C'était exprès pour faire ce discours sur l'identité nationale et pour me réapproprier à la gauche, mais au-delà de la gauche, puisque quand on est candidat à l'élection présidentielle, l'idée c'est comme d'incarner tout un pays, et donc pour que ces valeurs soient réappropriées par une candidate de gauche, et c'est pour ça que je choisis Vitrolles. Et ensuite, il y aura le meeting de Marseille, où pour la première fois, je vais faire chanter au cours d'un meeting de gauche la Marseillaise en expliquant le pourquoi du comment Louise Michel faisait chanter la Marseillaise à ses élèves, comment est-ce qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle faisait chanter la Marseillaise et comment je réexplique que les fameuses expressions qui parfois suscitent des interrogations sur le sang impur qui abreuve les sillons, comment je réexplique cette phrase à la lumière des sacrifices pour la liberté, et j'explique que c'est un chant de liberté.
Alors Ségolène Royal, qu'est-ce qui se passe en 2006 qui fait que vous avez tout d'un coup envie de parler d'identité nationale dans un parti qui n'en parle pas? Thomas disait tout à l'heure un désir peut-être précurseur, mais en tout cas qui a anticipé de très nombreuses critiques dans votre camp, et puis quand même qui a aussi inauguré une ère de l'identité qui a été aussi lancée par Nicolas Sarkozy. D'où ça vous vient?
D'abord parce que je me suis toujours intéressée à ce que pensaient les Français. Donc j'ai toujours regardé avec beaucoup d'attention les enquêtes d'opinion, rencontré des sociologues, fait beaucoup de démographie depuis très longtemps. Ce sont des sciences qui m'ont toujours passionnée. Et depuis très longtemps, je vois que cette question, elle est majeure. Ensuite, peut-être que j'ai un itinéraire aussi personnel. Moi, je suis fille de militaire, donc j'ai été aussi élevée dans le respect de la nation, du pays. Et j'ai jamais pensé que c'était, même si je viens d'une famille plutôt de droite, je n'ai jamais pensé que ces valeurs-là étaient des valeurs contre lesquelles je devais me dresser. Donc j'ai fait le tri aussi dans les valeurs qui m'ont été transmises. Et ces valeurs-là, j'ai toujours pensé qu'elles étaient extrêmement structurantes.
Mais quand on est candidate à l'élection présidentielle en 2006, à quoi ça sert de parler d'identité nationale? À quoi ça sert? C'est-à-dire, quel est l'usage politique qu'on peut faire d'un discours comme ça? Alors, encore une fois, je pense qu'il y a des histoires qu'on se raconte, mais vous vous dites quoi? Vous dites, il faut parler aux Français de quelque chose qui les intéresse, il faut que les fédérer autour de moi. Quelle est l'utilité avec vos conseillers quand vous vous dites, je vais parler de la nation? C'est dans quel but?
Bon, je ne pense pas qu'il y ait d'instrumentalisation d'un discours. Je ne m'interroge pas, je suis une candidate extrêmement libre. Certains pensaient d'ailleurs beaucoup trop libre pour être soutenue. Donc je suis une candidate extrêmement libre et je porte ce que je crois bon pour le pays, pour la nation. Je pense, je parle avec les convictions les plus fortes qui sont les miennes et je me dis, là se trouve quelque chose à se réapproprier et à se réapproprier rapidement. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'aide la gauche à se réapproprier des valeurs qu'elle pensait ne plus lui appartenir. Par exemple, j'étais ministre de la Famille. Et je me souviens...
Quelques années plus tôt, sous Lionel Jospin.
Quelques années plus tôt. Et déjà, à l'époque, j'avais dit, non, c'est pas la famille, c'est les familles au pluriel, mais la gauche doit se réapproprier la question de la famille. Alors déjà, j'avais été cataloguée de droite, entre guillemets, parce que je m'occupais de la famille. Ensuite, au moment du début de l'élection présidentielle, j'avais avancé la question de la valeur travail. J'avais dit, je serai la présidente de la valeur travail, c'est la valeur fondamentale. D'ailleurs, un concept qui ensuite a été récupéré par mon adversaire. Mais j'étais la première, quand on regarde, d'ailleurs je me souviens, c'était un très bel article dans le journal Le Monde où je dis je ferai ma campagne présidentielle autour de la valeur travail. Et à ce moment-là, j'ai eu les attaques les plus violentes dans mon camp sur le thème, ça y est, c'est la candidate du travail, famille, patrie. Parce que du coup, effectivement, ces trois concepts apparaissaient, mais avec bien évidemment des profondeurs totalement différentes que celles qu'on voulait y voir trop rapidement.
Anne-Marie Thiès, cette réappropriation des valeurs, hein, pas seulement la patrie, c'est que Anne-Marie vient de le rappeler, la famille, le travail, dans ces années 2006-2007, comment est-ce que vous expliquez que ce débat est pris, se soit cristallisé, et qu'après d'ailleurs, ça ait alimenté des polémiques autour par exemple du ministère de l'identité nationale, évoqué par Nicolas Sarkozy, l'adversaire de Ségolène Royal, Anne-Marie Thiès?
Il y avait une chose aussi très intéressante dans les archives que nous avons écoutées, c'est que Madame Royal, Ségolène Royal, connectait clairement cette idée de la nation à une version de gauche de la nation, à savoir la solidarité sociale et l'idée de progrès. Parce que ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui s'opposent à des versions de droite de la nation qui sont sur la défense d'une identité exclusive, etc., et du conservatisme, voire des dimensions réactionnaires. Là, il y avait cette idée solidarité sociale, aller de l'avant, etc. Et ça, il faudrait quand même le rappeler, ça se situe d'abord après 2005, c'est-à-dire après l'échec
du référendum sur la Constitution européenne.
Oui, avec le refus du référendum sur la Constitution européenne, qui a posé très clairement la question de la souveraineté, parce que quand on parle de nation, il y a la question de la souveraineté, et dans un contexte qui est celui de la globalisation, on l'a évoqué, où des changements qui arrivent de manière extrêmement rapide et extrêmement intense vont créer une inquiétude très forte sur la capacité des États-nations existants à exercer encore les missions qu'ils avaient exercées en Europe occidentale, à savoir la solidarité, la défense sociale, la défense de l'emploi, de faire société, de faire communauté, cohésion et de redistribution. Et puis aussi, cette question de la globalisation qui est posée encore aujourd'hui, de nos jours encore plus cruciale, finalement, où se situe le politique dans la globalisation et où se situe la démocratie?
Anne-Marie Thiès, est-ce qu'il n'y avait pas aussi la question des émeutes en banlieue? Je pose la question aussi à Ségolène Royal. Est-ce que ça jouait un rôle aussi dans votre réflexion? On était un an, deux ans après les émeutes très violentes qui avaient secoué les banlieues françaises, qui ont créé une sorte de crise, même de, en tout cas, de l'idée d'intégration ou du sentiment qu'on avait qu'elle était en panne. Est-ce que ça joue un rôle aussi dans votre prise de parole sur ces questions, Ségolène Royal?
Oui. Bien sûr que ça joue un rôle. C'est si vrai que j'ai avancé aussi, j'ai défendu la France métissée. Et je savais que ça a été provoquant, que ça allait sans doute me faire perdre même un certain nombre de voix. Mais je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, que ce métissage est une richesse. Et pour moi, ça n'était pas antinomique de défendre la patrie, la nation, le drapeau tricolore et la France métissée.
Alors justement, puisque vous évoquiez ce thème, on va vous faire écouter celui qui était votre adversaire de l'époque et qui lui aussi, en 2006-2007, évoquait cette question de l'identité nationale. Mais là, il s'exprime il y a quelques mois seulement. C'était en 2015. Novembre 2015, Nicolas Sarkozy, lors d'un meeting à Schildigheim.
Dans ce moment de doute, dans ce moment d'angoisse, une seule idée doit nous guider. Rendre aux Français la France de toujours, que nous n'acceptons pas de voir disparaître. La France de toujours, dans mon esprit, elle n'est pas immuable. Les valeurs de la France de toujours, c'est ce que nous avons de mieux offrir à nos enfants. Et à ceux qui veulent partager notre destin. Nul ne peut prétendre vouloir partager le destin français sans prendre les valeurs de la France à son compte. La France n'est pas un supermarché où l'on choisit ce qui vous convient. La France est en tout que l'on adopte comme tel et auquel on apporte sa contribution et ses sentiments. Ces valeurs n'auraient pas dû être bradées. Ces valeurs n'auraient pas dû être reniées. Il n'y a pas d'identité française, il n'y a pas d'identité heureuse dans une société devenue multiculturelle. Il n'y a pas d'identité française, il n'y a pas d'identité heureuse si nous ne partageons pas des valeurs morales. Un mode de vie, une politesse, le sentiment d'appartenir à une nation, d'avoir une histoire, une langue, un imaginaire commun et une volonté d'être solidaire dans les plus grands succès comme dans les pires épreuves. C'est sur ces valeurs dont nous nous sommes écartés que nous allons devoir reconstruire.
Nicolas Sarkozy, c'était en novembre 2015, il dit « il n'y a pas d'identité heureuse dans une société devenue multiculturelle ». Ségolène Royal, est-ce que ça veut dire que 10 ans après votre appel à la France métissée, il n'y a plus d'espace en France pour parler de ces questions de prise en compte des discriminations, de pluriculturalisme ou de multiculturalisme, ça dépend le terme qu'on emploie, mais en tout cas de reconnaissance de la différence culturelle?
Au contraire, la place est plus que jamais à prendre. Ce qu'on observe dans ce discours, c'est que le concept de la France de toujours, qui est un concept qui ne me viendrait jamais à l'esprit, c'est le mythe d'un âge d'or, c'est-à-dire c'était mieux avant. Et donc les conservateurs ont toujours joué sur cette corde qui consiste à dire « c'était mieux avant ». Et on se dit qu'avec des expressions comme celle-ci, ce qui est visé, c'est d'abord un électorat âgé, c'est-à-dire qui a peur du changement, qui ne comprend pas les mutations, qui se dit que justement la politesse, toutes ces valeurs, qui ne sont ni des valeurs ni de droite ni de gauche, c'est vrai qu'il vaut mieux être poli qu'impoli, mais derrière ces concepts, vous voyez, il y a l'idée, on se fait submerger par une culture qui n'est pas la nôtre et qu'on ne reconnaît pas. Alors que la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on continue par l'école de la République, par les valeurs que l'on partage, par les médias, par la culture. Comment est-ce que la France continue à être ce creuset où il y a en effet des valeurs auxquelles on tient, des valeurs culturelles auxquelles on tient, et en même temps où on s'enrichit de la différence des autres.
Anne-Marie Thiès, quand on écoute Ségolène Royal, on vient d'entendre Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'il y a deux conceptions très différentes de l'identité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence entre la droite et la gauche très marquée? Je crois que la réponse est sûrement oui, mais surtout, sous quels aspects en fait est-elle marquée cette différence entre la gauche et la droite sur la façon de parler de l'identité nationale?
Alors, dans le cadre des études hein, sur cette question de l'identité nationale, on considère que l'identité, c'est pas un bloc de choses, la politesse, le langage, les 365 fromages français, etc. On considère que c'est un système, un ensemble de représentations qui peuvent être très diverses les unes des autres. Il y a des représentations de gauche, il y a des représentations de droite de la nation, et que ce système de représentation est tout le temps évolutif. Ça ne fonctionne que dans la mesure où ça change tout le temps pour s'adapter au présent et aux enjeux de l'avenir. Donc, il n'y a pas un bloc à conserver et à transmettre tel quel. Sinon, ça s'arrête. Et puis, l'idée qu'il y a une identité unique, c'est un rêve quand même de société totalitaire. Soyons clairs.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait une tentation totalitaire à droite et une diversité à gauche. On ne peut pas le diviser comme ça, si ?
Il peut y avoir, alors, à l'extrême de la tentation de droite, la tentation totalitaire de « je ne veux voir qu'une seule tête, une seule manière de penser, une seule manière de me comporter ». L'Allemagne a connu ce genre de dérive pour son plus grand malheur et a appris depuis la diversité comme nécessité pour exister dans le monde contemporain. Mais je crois qu'il faut vraiment insister sur l'idée qu'une version de gauche de l'identité nationale, c'est d'aller éventuellement puiser dans l'histoire. C'est vaste, hein, l'histoire, on y trouve beaucoup de choses. Hein. C'est d'aller puiser dans l'histoire des éléments qui permettent de répondre aux enjeux du présent en maintenant des notions de cohésion, de solidarité, de justice sociale et de capacité à imaginer l'avenir. Parce que ce qui me semble depuis 10 ans, c'est que nous sommes en grande panne d'avenir, hein, en grande difficulté à l'envisager, d'où cette tentation d'aller chercher dans le passé un âge d'or, comme vous dites, duquel nous n'aurions pas dû dériver.
Ségolène Royal, il y a 10 ans, quand vous avez parlé de la nation, vous l'avez rappelé, vous mettiez une sorte de pavé dans la mare à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la gauche est plus unanime autour de ces questions-là, ou il reste quand même des lignes de fracture ? Je pense récemment à une fracture qu'il y a eu autour de la question de la laïcité, entre d'un côté le Premier ministre Manuel Valls et de l'autre côté Jean-Louis Bianco, l'un de vos anciens conseillers, président de l'Observatoire de la laïcité. Il reste des points comme ça de fracture ?
C'est plus des points de malentendus, je dirais. Bien évidemment, moi j'adhère complètement à la vision de la laïcité telle que la défend Jean-Louis Bianco. Ça paraît très, très évident. Hein. Parce que ce n'est pas une laïcité de rejet, ou ce n'est pas une laïcité de clivage ou d'exclusive. C'est une laïcité humaniste et une laïcité qui permet l'évolution et qui respecte aussi les choix de l'adulte, au fond. Donc, effectivement, je pense que ce problème-là continue à devoir être débattu au sein de la gauche, mais plus en l'approfondissant, justement, avec des chercheurs, avec la connaissance, et pas dans des invectives ou des à peu près. Et je crois que Jean-Louis Bianco, qui a justement étudié ces choses de très près, n'est pas dans le schématisme des choses qui peuvent être dans la façon de voir des autres.
Mais au-delà des petites phrases, vous avez quand même un mouvement qui vient de se monter, qui s'appelle le Printemps Républicain, co-signé par des anciens ministres, des intellectuels, des journalistes, etc., qui défend une dimension très, on va dire, combative de la laïcité, pour dire le moins. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de fracture, y compris sur cette question, à gauche ?
C'est vrai.
On a du malentendu.
Le travail doit continuer à se faire, parce que la société évolue. Elle évolue et elle doit être revue et ces concepts doivent être revisités avec le poids des images que l'on voit, avec les mouvements de population, avec le terrorisme qui arrive. Mais en même temps, il ne faut pas tout mélanger non plus.
Est-ce que ça ne devient pas incompatible avec votre conception de la France métissée, à un moment donné qui disait qu'il faut faire de la place aux différences ? Est-ce que la laïcité, ça ne peut pas être un discours qui, à un moment donné, devient englobant ? Ce n'est pas juste un malentendu, c'est aussi des fois des confrontations de récits sur ce qu'est la France.
C'est une confrontation de récits. Mais moi, je fais le choix parce que je fais confiance à... J'ai confiance dans la nation française et dans la force de la nation française pour peu que l'on soit capable, et c'est le rôle des politiques, mais c'est aussi le rôle d'une société tout entière, c'est le rôle des citoyens. On ne gère plus aujourd'hui finalement la communication ou même les concepts politiques comme il y a 10 ans avec les réseaux sociaux.
Donc, en faisant confiance à la nation, vous faites confiance à une forme de diversité. C'est-à-dire que la diversité, le métissage, pour reprendre votre thème d'il y a 10 ans, ne vous fait pas peur en soi.
Non seulement ça ne me fait pas peur, mais je pense que si nous y renonçons, nous renonçons à une des forces de la France. Et pour certains, au contraire, la laïcité, c'est le refus de toutes les religions. Mais non, au contraire, les religions, ce sont des identités extrêmement fortes. Et la cohabitation entre les religions, c'est aussi une forme de cohabitation entre les cultures. Et donc le rejet des religions, c'est une grave faute par rapport à l'histoire de ce qu'a fait la France.
Anne-Marie Thiès, un mot sur cette question ?
Oui, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'il faudrait rappeler, c'est que la laïcité n'est pas l'athéisme obligatoire et que la loi de 1905, c'était la version française d'un processus de sécularisation qui s'est produit dans bien d'autres États-nations sous des noms et sous des formes quelque peu différentes et que jamais la loi de 1905 n'a prévu la disparition de tout signe religieux dans l'espace public et certains qui ont encore mon âge se rappellent avoir vu
très abondamment dans les rues françaises, encore dans les années 60, voire même les années 70, des religieux en soutane, des cortèges religieux, des cérémonies religieuses. Oui, ça existait et ça ne portait pas atteinte à la République. On a même eu des députés prêtres qui venaient en habits religieux à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas empêché la sécularisation de se faire. Ce qui me paraît être un événement quand même extrêmement important et sur lequel nous oublions souvent de réfléchir, c'est quand même l'effondrement de la pratique religieuse des Français chrétiens dans ce pays depuis les années 70, qui nous donne, si nous considérons uniquement l'état présent de la France, nous donne une idée complètement fausse de ce qu'a pu être l'histoire de la France et l'histoire de la République.
Qui intègre justement ces identités religieuses.
En même temps, le paradoxe, c'est que lorsque vous interrogez les Français, 70% d'entre eux se déclarent catholiques. Alors que la pratique s'est effondrée. Donc ça veut dire que
il reste un soubassement culturel.
Il reste un soubassement culturel très important.
Ségolène Royal et Anne-Marie Thiès, on se retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite place à la séquence internationale de l'émission. Vous écoutez l'Atelier du pouvoir jusqu'à 13h30.
France Culture, l'Atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Dans le prolongement de notre intérêt cette semaine pour la définition d'une identité française ou en tout cas des usages politiques qui en sont faits, nous avons décidé de vous emmener dans un pays qui connaît également des débats assez vifs sur l'identité, c'est-à-dire l'Allemagne. Dans ce pays, on a assisté lors de la Coupe du Monde de football de 2006, une Coupe du Monde que l'Allemagne organisait, à une résurgence de la fierté nationale et même d'une possibilité de célébrer une identité nationale mise en sourdine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la position dominante de l'Allemagne en Europe, la crise démographique, mais aussi le défi posé par l'arrivée de près d'un million de migrants pose des questions brûlantes sur l'identité allemande dans cette première moitié du XXIe siècle. Pour comprendre les ressorts de ce débat et de ses usages dans la vie politique allemande, je reçois aujourd'hui Pascal Laborier. Bonjour Pascal Laborier.
Bonjour Vincent.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nanterre, spécialiste de la construction de l'identité nationale en Allemagne. Vous avez également été directrice du centre Marc Bloch à Berlin de 2005 à 2010. Berlin, justement, une ville sur laquelle vous allez publier un ouvrage à la découverte, coécrit avec Denis Boquet, qui s'intitule « Sociologie de Berlin » et qui sort dans quelques jours, ce sera au mois de mai. Ma première question, elle porte un peu sur le sentiment de l'identité nationale en Allemagne. Est-ce que vous diriez, comme en France, qu'il y a un sentiment de crise qui est partagé dans la société allemande ?
Il y a plutôt des interrogations permanentes, puisqu'il y a plusieurs identités culturelles allemandes. D'abord, il y a eu plusieurs Allemagnes, la RFA, la RDA, l'Allemagne unifiée. On a surtout des cultures régionales. Être bavarois ou saxon ou bernois, c'est pas la même chose. Et puis, si on pense au débat sur le choix de la capitale après l'unification entre Bonn et Berlin, le choix était très serré. Et pour le coup, on trouvait que, pour certains de ses détracteurs, que Bonn était une meilleure capitale pour éviter de faire ressurgir le nationalisme allemand.
Dans quelle mesure vous avez l'impression que l'Allemagne a su dépasser son passé, justement, pour évoquer l'identité nationale aujourd'hui, un passé, bien sûr, très sombre au moment de la Seconde Guerre mondiale?
D'abord, l'Allemagne n'a pas eu le choix de faire autrement. Il y a eu une occupation à la fois par les Alliés du côté occidental et du côté de la RDA par les soviétiques. Il y a eu une politique de rééducation, donc il y a eu des politiques d'éducation civique très actives avec une réflexion permanente. Jusqu'à aujourd'hui, les responsables politiques, mais aussi les citoyens, apprennent à répondre sur les questions de menaces, de dérives totalitaires sur le nazisme. Et les écoliers vont visiter les sites et les monuments de l'histoire. Donc il y a une conscience très vive. Et même récemment, lorsqu'on a vu Pegida agiter des drapeaux et l'islamophobie, il y a eu immédiatement des manifestants qui se sont opposés à ces manifestations. Et il y a eu également une réflexion sur le danger, la résurgence du nationalisme.
À ce titre, vous avez l'impression qu'il y a une façon de gauche et une façon de droite de brandir cette question d'identité nationale en Allemagne aujourd'hui ?
Alors, il y a une grande différence entre la gauche et la droite en fonction des gouvernements régionaux, qui a été le rapport à la religion et la question qui serait presque celle de la laïcité, mais c'est très limité, puisque la gestion des cultes est publique en Allemagne, c'est-à-dire on paye des impôts sur la religion, il faut se désinscrire de la religion pour ne pas payer d'impôts pour la religion, donc l'État entretient les bâtiments, qu'on soit protestant, catholique, hein, puisque l'Allemagne est confessionnel de ce point de vue-là, c'est 34%, mais aussi la religion musulmane, si on est juif ou d'autres religions. et il n'y a pas le même débat sur la laïcité que celui que l'on connaît en France. Donc là, il y a une vraie différence, mais en même temps, le mot fort qui a été prononcé tout à l'heure, c'est la question du multiculturalisme. C'est vrai que c'est né plutôt dans les débats après 68, des cercles, bon, à la fois de gauche et puis dans le Parti des Verts ensuite. Mais ça s'est étendu à tous les partis politiques, puisque finalement, c'est le gouvernement de Kohl, dans les années 80, qui a été le plus grand promoteur du multiculturalisme. Et d'ailleurs, Angela Merkel, récemment, a dit que c'était la fin du multiculturalisme, avec la crise des migrants, qu'il fallait plutôt parler de la culture de référence, de la light culture.
Alors justement, on imagine que la récente crise des migrants a un peu transformé les termes de ce débat. De quelle manière cela a-t-il transformé ce débat sur l'identité nationale allemande ?
Il y a deux éléments qui ont été importants. Là, récemment, il y a eu les trois élections régionales en Allemagne où on a vu la montée d'un parti qui s'appelle l'Alternative pour l'Allemagne. On a cru voir la résurgence des partis nationalistes. Alors, ici, c'est vrai qu'il y a eu, comme premier élément, une très forte augmentation de ce type de parti qui est récent en Allemagne de l'Ouest, alors que jusqu'à présent, on pensait que les mouvements plutôt contestataires, plutôt populistes, étaient le lot de l'ex-Allemagne de l'Est. Notamment, il y a eu l'élection du Bade-Württemberg. Mais il faut limiter aussi ce type d'interprétation, puisque le Bade-Württemberg est un land où il y a 10 millions d'habitants. Il y a une très forte mobilisation, donc sur 7,6 millions d'électeurs, 5,4 ont voté, ce qui est une participation élevée. Et on a vu que la nouvelle participation était due à ce parti.
Ségolène Royal, quand vous entendez cette analyse sur l'Allemagne, est-ce que vous pensez que la question des réfugiés et des migrants, qui est aussi présente en France, va peser justement sur le débat sur la nation lors de l'élection présidentielle de 2017, et si oui, en quels termes ?
Je ne suis pas sûre que ça pèse en France sur le débat concernant la nation, parce que là, il y a un effet de nombre. Oui, donc, à la limite, toutes les peurs qui ont été agitées par l'extrême droite sur la question qu'on entendait tout à l'heure, vous allez être submergés, ils sont même pas polis. Ça faisait écho un peu, vous savez, à toute cette thématique des odeurs, ou même quand la gauche est arrivée au pouvoir, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, là, en 1981, où la droite ne supportait pas de nous voir dans les ministères, et il y avait eu cette expression, mais ils ne savent même pas se servir d'un couvert à poisson. C'était assez drôle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mélange entre l'identité française et finalement les codes des classes sociales, en fait. Et donc, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui fait l'art de vivre va être détruit par le nombre, c'est un peu ça.
Alors justement, dans la dernière partie de cette émission, on va parler un petit peu de l'élection présidentielle de 2017 à venir, des débats sur l'identité qui vont venir l'année prochaine. On voudrait d'abord vous faire entendre une voix que vous connaissez très bien, cette voix, c'était celle de Marine Le Pen, qui le 25 mars 2012 à Nantes, posait déjà des termes tout à fait différents de ce que devrait être l'identité nationale. On l'écoute.
Tous les enfants de France, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion, doivent connaître les figures de Clovis, de Roland, de Saint-Louis, de Richelieu, de Colbert, mais aussi de Robespierre, de Napoléon et de Gaulle. Tous les enfants de France doivent connaître les 43 qui ont mis l'enfir la France. Tous les enfants de France doivent connaître les 43, doivent connaître aussi et doivent vibrer comme Marc Bloch au récit du Sacre de Reims et au récit de Valmy. Et puis évidemment, tous les enfants de France doivent avoir pour référence Jeanne, la sainte de la patrie. Je n'ai rien, mes amis. Je n'ai rien contre l'histoire du Mali ou du Monomotapa, qui a remplacé l'étude de Henri IV ou de Napoléon Bonaparte, mais les connaître n'aide en rien à penser la France. Je respecte toutes les nations du monde, mais je veux que l'on respecte la France, ma patrie, notre patrie.
Anne-Marie Thiès, on vient d'entendre Marine Le Pen, et là on voit bien qu'il y a un discours très différent sur l'identité, différent de ce qu'on a entendu de Nicolas Sarkozy, bien sûr différent de ce qu'on entendait de la bouche de Ségolène Royal. En quoi vous diriez qu'il y a une singularité du discours d'extrême droite sur la question de l'identité nationale ?
Il y a quand même aussi une différence entre le discours de l'extrême droite des années 80 et le discours de l'extrême droite de nos jours.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, comme dans d'autres domaines, on voit qu'il y a une capacité de l'extrême droite pour accroître son électorat et donc ses résultats à récupérer une partie des discours des autres partis. Et on voit ici que dans le cadre national, il y a une volonté explicite de récupérer une version de gauche, une vieille version de gauche de l'identité nationale, avec les référence à Robespierre qu'on colle avec Clovis ou avec les 43 qui ont fait
Nicolas
la France.
Nicolas Sarkozy a un peu fait ça en 2007, non ?
Oui, alors c'est un peu le même processus. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, il y avait l'idée de récupérer à droite une partie du patrimoine de gauche. Et il y avait une espèce d'ouverture à gauche dans l'histoire nationale, rétrospective, qui avait été menée et qui là est menée par Marine Le Pen. De la même manière qu'on voit que dans la question sociale et économique, on est passé du modèle hyperlibéral à « c'est nous qui défendons les travailleurs, c'est nous qui défendons les fonctionnaires, la retraite à 60 ans, etc. » Alors c'est un collage énorme. En même temps, on s'aperçoit que cette histoire qui devrait être enseignée dans les classes, à son avis, c'est une histoire qu'on n'enseigne plus depuis très très longtemps. Depuis les années 1960, ce n'est plus celle qu'on enseigne dans les classes. Donc c'est un retour phénoménal vers les années 1930.
Face à une extrême droite qui essaie de récupérer la nation et parfois même des emblèmes de gauche, la République, la laïcité, comment est-ce que la gauche, elle, peut réagir sans se faire dépasser et j'ai envie de dire déposséder ? Ségolène Royal.
Oui, c'est très juste. Je pense qu'il faut que la gauche affirme et repense la mondialisation par rapport à ça. Parce que ceux qui ont récupéré, comme vous le disiez, quand Nicolas Sarkozy a récupéré un certain nombre de repères historiques de gauche, le naturel est vite revenu au galop, si j'ose dire, parce qu'ensuite, quelques temps après, il va à Dakar prononcer quand même ce discours épouvantable sur l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Ce qui m'a donné d'ailleurs l'occasion de faire un contre-discours de Dakar et de rappeler quand même que le berceau de l'humanité, c'est en Afrique, puisque le premier humain, c'est Lucie, en station debout, c'est en Afrique que l'on en trouve les traces les plus anciennes. Et donc, par rapport à ça, il reste toujours, vous voyez, ce mélange du repli d'un discours réactionnaire qui se replie sur l'hexagone. Et d'ailleurs, dans le discours de Marine Le Pen qu'on entend, c'est symptomatique. Parce qu'il n'y a aucune incompatibilité à parler du Mali et à parler de Clovis, précisément. Parce que la France, c'est aussi le Mali, c'est aussi l'histoire de France. Mais paradoxalement, donc cet exemple est quand même très, 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 très mal choisi, surtout l'extrême droite qui voulait l'Algérie française. Donc aujourd'hui, tous les citoyens algériens seraient français. Ceux-là même qui sont aujourd'hui refoulés par la même extrême droite. Donc vous voyez, les contradictions, finalement, dans le discours de droite ou d'extrême droite, elles sont flagrantes. Parce que il y a cette incapacité à renouer entre la nation et la mondialisation.
Merci Ségolène Royal, Anne-Marie Thiès et Pascal Laborier. Avant de nous quitter, puisque nous sommes partenaires du Monde pour cette émission, vous avez lu, Vincent, leur série « Être français » qui paraît ces jours-ci.
Et je vous en recommande la lecture vivifiante de ce hors-série en effet touffu. Dense, absolument passionnant, qui donne à lire les grands textes de ceux qui ont tenté de penser la France depuis des temps où la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Être français se compose de deux parties tout aussi intéressantes l'une que l'autre. D'abord, une série de grands entretiens entre des intellectuels contemporains, Pascal Bruckner et Patrick Veil, le sociologue Éric Fassin et l'historienne Sophie Varnisch, mais également des hommes politiques qui débattent calmement, parfois avec de forts désaccords, de l'identité française. À ce titre, le débat entre Jean-Pierre Chevènement et François Bayrou est tout à fait lumineux. Mais la force de ce hors-série, qui aurait pu se contenter d'interroger des intellectuels classiques, est aussi de donner la parole à ceux qui voient la France depuis une forme d'ailleurs. L'ailleurs intime de l'outre-mer, avec des pages rares, formidables, de l'écrivain antillais Patrick Chamoiseau et du regretté Édouard Glissant, qui définissent l'identité comme une forme d'être dans le tout-monde. Un ailleurs amical aussi, celui permis par le regard de Milan Kundera dans un texte d'abord paru dans Le Monde en 1993, ou encore de l'historien britannique Theodore Zeldin, qui a écrit tant de pages sur la France et qui livre ici une réflexion sur la temporalité française. Une seconde partie, plus classique mais tout aussi intéressante, est accordée à une centaine de courtes réflexions d'hommes politiques et d'intellectuels, d'écrivains, d'universitaires ou de journalistes sur la France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. La force d'un tel recueil tient de ce qu'il démontre sans forcément le vouloir qu'il est bien impossible de tracer une ligne qui unisse tous ces textes, toutes ces conceptions de la France.
De Victor Hugo à Louise Michel, de Jaurès à Maurras, de Camus à De Gaulle ou de Brodel à Claude Lefort, il y a et il y aura toujours mille manières de raconter la France, car plus qu'une identité fixe, immuable ou éternelle, c'est la confrontation de différents récits de la nation qui traduit le mieux la singularité de notre identité nationale, et c'est la qualité principale de ce hors-série, de rendre compte de cette complexité.
Merci Vincent, c'est la fin de cet Atelier du Pouvoir, une émission donc de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Cyril Baer, réalisée par Doria Zenim. La technique aujourd'hui, Jean-Louis Delon. Pour écouter l'émission, comme d'habitude, franceculture.fr, et pour nous suivre, Facebook ou Twitter, @ateliers pouvoir. Et nous, Vincent, on se retrouve samedi prochain à 12h50 pour parler de quoi ?
Eh bien, nous parlerons de qui gouverne Internet.
Le pouvoir sur Internet. Autre vaste sujet, à la semaine prochaine pour un nouvel Atelier du Pouvoir. Tout de suite, place à Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Excellent week-end à tous sur France Culture. Thank you.